à manifester sa gloire. Et il a guéri, je me souviens, une petite fille de 2 ans qui n'avait jamais marché. Et on voyait, elle se traînait sur son derrière, elle avait 2 ans. Pour les petites Africaines, 2 ans, c'est trop tard. Je ne sais pas ici à la Martinique, mais en Afrique, c'est très très tard parce qu'un enfant en Afrique se met à marcher à partir de 6 mois. Donc 2 ans, c'est largement, largement trop tard. Et la maman avait perdu espérance. Et cette petite fille a commencé à marcher. Et puis, elle avait peur. Mais d'un seul coup, elle a couru dans les jupons de sa maman. En larmes, la puissance de Dieu était là, toucher cette petite. Et d'autres miracles extraordinaires. Il y avait une femme qui était à l'hôpital dans le coma, une femme d'une trentaine d'années ou 35, mourante, qui attendait sa mort. Les docteurs attendaient sa mort, elle était dans le coma, tout à fait absente, mourante. Et quelques-uns étaient venus et avaient demandé la permission au docteur d'amener cette femme à la croisade. Et il l'avait donc sortie en taxi. Et il y avait un journaliste chrétien qui était dans le taxi avec cette femme dans le coma. Et il l'avait amenée à la croisade où le Seigneur guérissait jour et nuit. Et c'était extraordinaire parce que cette femme, les docteurs l'ont laissée aller. Ils ont dit, de toute façon, elle n'a rien à perdre. Elle va mourir. Alors, ils l'ont amenée dans le coma. Et au moment de la prière pour les malades, cette femme est sortie de son coma. S'est levée entièrement guérie. Elle est venue sur le podium et il n'y avait pas d'espoir pour elle à l'hôpital. Mais la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et quand Dieu guérit des malades pour confirmer sa parole, c'est parce qu'il veut nous montrer qu'il a le plus grand des miracles qu'il puisse faire. C'est la transformation d'un être, d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Le plus grand miracle n'est pas des yeux d'aveugle qui s'ouvrent, un paralytique qui marche. Le plus grand des miracles, c'est quand Dieu transforme une vie. Parce que ça, personne ne peut le faire. Et là, à la croisade, je vais juste, parce que ce soir, vous avez bien chanté, que la puissance de Dieu est supérieure à celle des sorciers. Et je vais vous dire, ce soir-là, ou ces soirs-là, il y avait 2 sorciers qui se sont convertis en voyant la puissance de Dieu à l'œuvre. Et il y avait un sorcier qui pratiquait sa sorcellerie depuis 48 ans. Et il est venu et il avait cherché à se guérir lui-même parce qu'il était malade. Et ce soir-là, il a vu une puissance supérieure à la sienne, celle de Jésus, notre Sauveur, qu'il a touché et il a été instantanément guéri, lui qui cherchait la guérison auprès des sorciers, de partout, et qui cherchait à se guérir lui-même. Il n'était pas parvenu, mais quand il a vu la puissance de Dieu. Et un autre sorcier qui pratiquait de la sorcellerie depuis 23 ans. Et celui-là est venu et a dit... Ce soir, je donne ma vie à Jésus et je veux témoigner devant tous, parce qu'il y a des gens dans l'auditoire qui le connaissaient comme sorcier, que j'ai perdu mon fil téléphonique avec Satan. À partir du moment où il a donné sa vie au Seigneur, il a perdu son fil téléphonique. Alléluia! Alléluia! Et vous savez, en Afrique, on voit souvent cela. Les Africains vont toujours du côté du plus fort. Est-ce qu'ils ont raison? Amen. 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 Et qui c'est le plus fort? C'est Jésus. Et vous savez, quand on a vu ces miracles que Dieu faisait, la foule était là. Elle n'avait pas peur, comme dans le stade. Elle criait Jésus, Jésus, Jésus. La foule n'avait pas honte. 5 000, 6 000 personnes qui criaient Jésus. Nous aussi. N'ayons pas honte de celui qui nous a tant aimés, de celui qui a tout pouvoir. Et le Seigneur m'a montré qu'ici, il y a une personne qui est allée chez le sorcier pour vouloir recevoir sa guérison. Et le Seigneur te dit, toi qui es allé chez le sorcier, que tu as frappé à la mauvaise porte. Ce soir, le Seigneur est venu te rencontrer. mais tu dois t'humilier et demander pardon d'être allé chez le sorcier chercher ta guérison, parce que le sorcier, c'est le diable, c'est la puissance du diable. Et le Seigneur, lui, veut te guérir et changer ta vie, transformer ta vie, et ce sera encore toute autre chose qu'une guérison de ton corps. Ce sera la guérison de ton âme. Alléluia, Seigneur. Nous te prions pour cette personne, afin que, Seigneur, tu agisses dans sa vie et tu lui parles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans cette personne. Ce soir, tu es venu la rencontrer. Ce soir, tu veux te révéler à elle, qu'elle puisse obéir. Obéir, Seigneur. Obéir, t'obéir, Jésus. Merci, Seigneur, de l'aider et qu'elle puisse écouter ta parole avec attention. Nous t'en prions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et vous savez, le thème de mon message ce soir, c'est avoir une vie qui plaise à Dieu. Et je peux dire que la vie la plus satisfaisante sur la terre, c'est de vivre une vie qui plaise à Dieu. C'est la plus belle des vies. C'est celle qui satisfait profondément votre cœur et qui vous donnera le bonheur que vous recherchez. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous exhorte à bien écouter. Le bonheur, la satisfaction profonde ne peut venir que de celui qui nous a donné la vie. Ce matin, je lisais le témoignage d'un homme qui, pendant plusieurs années, était l'homme le plus riche du monde. Il s'appelait John Rockefeller. Je pense que vous avez entendu ce nom. C'était un multimilliardaire. C'était l'homme le plus riche du monde. Mais figurez-vous que cet homme-là était profondément malheureux. Il était malheureux comme une pierre. Il était insatisfait. Il avait tout l'argent qu'un homme aurait pu désirer. Mais il était malheureux et il ne pouvait même pas dormir. Ça le détruisait tellement qu'il en a perdu les cheveux et qu'il commençait à se ratatiner. Pourtant, c'était l'homme le plus riche du monde. Il avait besoin de garde du corps, tellement il vivait dans l'angoisse, avec une fortune que personne qu'il ne connaissait même pas lui-même. Et il avait 53 ans quand il a été frappé d'une maladie très rare. Les médecins ne lui donnaient plus un an à vivre. Il était vraiment malheureux. Alors, Rockefeller s'est mis à revoir sa vie et s'est mis tout à coup à changer. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a commencé à donner de son argent pour construire des églises, pour aider des pauvres. Son argent a servi à fonder un centre médical de recherche pour les maladies incurables. Il a commencé à donner. Et cet homme qui n'avait plus qu'un an à vivre, il avait 53 ans à ce moment-là, vous savez jusqu'à quel âge il a vécu ? Jusqu'à 98 ans. Parce qu'il a complètement changé de vie. Et vous savez, nous ne pouvons pas acheter Dieu par notre argent, aucunement, même pas avec les bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas acheter notre relation avec Dieu. Et le plus grand bonheur, il faut que je le dise ce soir, le plus grand bonheur, ce n'est pas de posséder beaucoup d'argent. Le plus grand bonheur dans ce monde, c'est d'être en relation avec Dieu, le Créateur. C'est de savoir que vous êtes en ordre avec Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir une vie qui plaise à Dieu si votre vie n'est pas en ordre avec lui. Ça commence par là. Nous ne pouvons pas avoir une vie qui plaise à Dieu, qui plaise au Seigneur, Et certainement, c'est votre désir à toutes, n'est-ce pas, de plaire au Seigneur, d'avoir une vie qui plaise au Seigneur. Mais nous ne pouvons pas l'avoir si nous n'avons pas de relation avec notre Dieu. Parce que, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu? La Bible dit que nous sommes pécheurs. Et c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Et qui peut dire qu'il n'a jamais commis un péché? Ce serait déjà un mensonge. Et ce mensonge-là vous séparerait tout de suite de Dieu. Un seul petit mensonge nous sépare de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas un seul. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc la première des choses, c'est de régler la question de votre péché si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, pour pouvoir retrouver votre relation avec ce Dieu saint, trois fois saint, qui ne peut voir le mal, qui ne peut voir la souillure, qui ne peut voir le péché. Et la Bible dit que personne, rien de souillé ni d'impur, n'entrera jamais, jamais au ciel. Jamais. Donc si tu n'as pas réglé la question de ton péché, tu n'es pas prête pour aller au ciel. Il s'agit que tu règles la question de ton péché. Peut-être que personne ne t'a jamais dit cela. Mais ce soir, le Seigneur est là et il te parle et il te donne l'occasion de mettre ta vie en ordre si tu ne l'as jamais fait. Et de retrouver ta relation avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a payé le prix fort pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un a pris ton jugement, le jugement de ton péché sur lui. Et il est mort à ta place. Et cet homme, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu, qui a quitté les gloires du ciel pour venir un jour mourir pour toi et pour moi. Il t'a tant aimé qu'il a quitté le ciel pour venir mourir comme un misérable sur une croix, à ta place. Et il a souffert une agonie à cause de toi, à cause de moi, afin que nous puissions être à nouveau en relation avec notre Père, qui est le Seigneur Dieu. Et c'est pour cela que ce soir tu es là, toi, afin que ta relation avec ton Dieu soit rétablie. Et seulement à ce moment-là, tu pourras mener une vie qui plaise à Dieu. Seulement à ce moment-là. Mais le Seigneur veut, c'est le plan de Dieu, notre Créateur, pour chacun de nous. Il nous aime la même chose. Il t'aime la même chose que moi. Il m'aime la même chose, autant que toi. Nous avons tous, toutes, la même valeur aux yeux de Dieu, parce que Jésus, le Fils de Dieu, a dû verser son sang précieux pour chacune de nous. Et c'est pour cela que ce soir, j'invite toute personne qui ne serait pas en relation avec le Seigneur de franchir ce premier pas vers le Seigneur. Viens à Jésus ce soir, alors qu'il t'appelle. Mets-toi en règle avec lui. Ne dis pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Demain pourrait être trop tard pour toi. Et si tu pars dans l'éternité, au-delà de la mort, sans avoir réglé le problème de ta relation avec Dieu et le problème de ton péché, eh bien la Bible dit que tu es perdu pour l'éternité. Alors saisis l'occasion. Ne n'endurcis pas ton cœur, alors que tu entends la voix du Seigneur ce soir te dire « Viens, je t'appelle, je t'aime, je suis mort pour toi. » Il te parle, et si tu entends sa voix, alors dis simplement « Oui Seigneur, je veux te donner ma vie. » Et il t'entend immédiatement, et immédiatement il applique son sang précieux sur ton péché qui te noircit le cœur. Et immédiatement, tu reçois la paix de Dieu et tu sais que désormais, tu es sauvé pour le temps et pour l'éternité. Et si ce soir, en sortant d'ici, tu meurs, eh bien tu as l'assurance de ton salut et tu sais que tu vas vivre pour l'éternité dans le ciel. Ça, c'est la plus grande richesse que nous puissions avoir. Parce que si nous possédions tout l'or du monde, mais que notre âme se perde, à quoi cela servirait-il, dis-moi ? Puisque tout l'or du monde, comme ce Rockefeller là, il faudra le laisser ici. Tu ne pourras pas l'emporter. Mais ce qui est important, par contre, et ce qui est la plus grande richesse, c'est d'avoir reçu la vie éternelle et de savoir que tu es sauvé par Jésus, auquel tu as donné ta vie. Alléluia, Seigneur. J'ai eu l'impression qu'il faut prier pour quelques personnes ici, afin qu'elles ne laissent pas passer cette occasion immédiatement là. Seigneur, nous te remercions et nous te demandons pour cette personne que tu aimes ou ces personnes que tu aimes, de leur faire la grâce de se tourner vers toi. Ne laisse pas passer le temps. Le temps n'existe pas, le temps ne t'appartient pas, je veux dire. Le temps ne t'appartient pas. Ta vie appartient à ton Créateur, à celui qui t'a donné la vie. Et elle peut être reprise quand il veut. Alors, ne perds pas cette occasion, viens à lui. Viens à lui alors qu'il t'appelle. Il t'appelle. Le Sauveur t'appelle. Viens à lui. Et une fois que nous avons donner notre vie au Sauveur. Je poursuis, je continue, et j'en arrive à la deuxième étape. Et la deuxième étape est une étape aussi importante. La plus importante est évidemment de donner sa vie au Seigneur, mais la deuxième étape est également importante. La deuxième étape, pour avoir une vie consacrée au Seigneur, pour avoir une vie qui plaise à Dieu, il faut se consacrer au Seigneur. Il faut être consacré au Seigneur. Ça, c'est une autre décision. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiennes et de chrétiens qui ne prennent jamais cette décision. Jamais. Ils sont sauvés, ils disent « Merci Seigneur, tu m'as sauvé » et ça leur suffit. Mais ce qu'ils n'ont pas fait et pas réalisé, c'est que maintenant que leur vie est au Seigneur, elle ne leur appartient plus. Elle appartient de droit à celui qui les a sauvés. Donc, il s'agit de faire une autre démarche maintenant, en réalisant que vous êtes une personne unique, avec une destinée spécifique, avec un qui doit entrer dans un plan que Dieu a préparé pour vous. Votre vie appartient au Seigneur et il s'agit maintenant de consacrer votre vie au Seigneur, de lui dire « Seigneur, je ne veux plus conduire ma vie comme je l'entends, je ne veux plus vivre pour moi-même, je veux que ce soit toi qui t'assieds sur le trône de mon cœur et qui commence à diriger les opérations. » Et ça, ça change tout. Et je sais qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont fait cela et qui ont vécu ainsi pendant un certain temps, mais qui, par la suite, ont repris elles-mêmes le contrôle de leur vie et les choses en main. Et puis, elles mènent leur vie comme bon leur semble, sans tenir compte de celui qui voudrait régner dans leur vie, être le maître et le seigneur de leur vie. Se consacrer au Seigneur, c'est ce deuxième pas que le Seigneur nous demande de faire pour avoir une vie qui lui plaise. Se consacrer au Seigneur veut dire que je renonce à mes intérêts, que je renonce à mes désirs, que je renonce à mes plans et mes projets. Et ça, je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui sont appelés à faire cette démarche, qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont fait et qui sont revenus en arrière. Qui l'ont fait et qui sont revenus en arrière. Et ce soir, je crois que le Seigneur nous donne à tous et à toutes l'occasion de lui reconsacrer notre vie et lui dire, Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté, non pas mes désirs, mais tes désirs, non pas mes projets, mais tes projets, non pas mes plans, mais non pas mes plans, mais tes plans. Et je vous assure que le jour où j'ai compris ça, je peux dire que ça a changé l'orientation de ma vie. C'est seulement à ce moment-là que vraiment le Seigneur a pu commencer à me conduire comme il veut, à m'inspirer, à changer l'orientation de ma vie. Et je ne crois pas que je serais ici ce soir en train de vous parler si je n'avais pas fait cette démarche-là. Je me serais certainement mariée avec un autre homme que Samuel, j'aurais certainement pas eu les enfants que j'ai eus. Mais c'est parce que j'ai dit un jour au Seigneur, « Seigneur, je veux que tu conduises ma vie. » Tu diriges les opérations, qu'il a tout pris en main et que, regardant en arrière, je peux dire combien il a béni ma vie, combien ma vie a été une vie qui n'a pas été parfaite, avec des faiblesses, des manquements, parce que je suis une femme, un être humain, mais quand même, je sais que le parcours que j'ai fait toutes ces années était dans le plan parfait de Dieu. Puissiez-vous toutes dire cela de votre propre vie, à partir du moment où vous vous êtes donné au Seigneur, bien sûr, c'est là que tout commence. Avant, le passé est passé, et le Seigneur a effacé, mais à partir du moment où vous donnez votre vie, vous avez donné votre cœur au Seigneur, donnez-lui pas seulement votre cœur, mais donnez-lui votre vie. Tout entière, tout entière. Et ça, c'est autre chose. Et à partir de ce moment-là, quand le Seigneur a vraiment pris le contrôle de votre vie, eh bien, vous êtes consciente que vous vivez pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui, lui, vous conduira dans le chemin parfait pour vous, que vous ne regretterez jamais. C'est la plus belle des vies. Et à partir de ce moment-là, vous chercherez vraiment à avoir une vie qui lui plaise. Et ça, nous sommes toutes appelées à avoir une vie qui lui plaise. Parce qu'un jour, nous aurons toutes des comptes à rendre de notre vie, de ce que nous avons fait de notre vie. Pouvons-nous, s'il venait ce soir, serions-nous vraiment en paix et tranquille, en train de faire ce qu'il veut, vraiment, et qu'il puisse nous dire, quand il nous introduira dans sa gloire, entre dans ma présence. Bonne et fidèle servante, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Oh, que nous puissions toutes entendre sa voix un jour nous dire cela. Et vous savez, la vie passe si vite qu'il ne faut pas perdre de temps. Si tu n'as jamais fait cette démarche, je t'encourage à ce soir dire au Seigneur, « Seigneur, je veux que ma vie soit un parfum agréable à tes narines, un vase d'honneur pour toi. Je veux que ma vie te plaise, telle que je la vis. Seigneur, prends-la et fais de moi ce que ton cœur désire. Puissions-nous avoir un amour si brûlant pour le Seigneur que dès que quelque chose le chagrine, quelque chose va de travers, dès que quelque chose n'est pas à la gloire de son nom, que tout de suite nous puissions nous remettre sur le chemin avec lui et marcher avec lui et avoir cette vie qui l'honore. Alors, un autre point que j'aimerais développer pour avoir une vie qui plaise à Dieu, c'est ceci. Pour avoir une vie qui plaise à Dieu, il faut avoir une relation personnelle avec lui. Vous lui avez donné votre cœur, vous lui avez donné votre vie, maintenant il s'agit d'être en relation avec lui. Si vous voulez bien marcher, si vous voulez marcher droitement, si vous voulez que votre vie plaise au Seigneur, eh bien vous devez rechercher à avoir une vie, une relation personnelle avec le Seigneur. Et comment avoir une relation personnelle avec le Seigneur ? En lisant chaque jour les Écritures, en priant, en prenant du temps et en recherchant sa face. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, de chrétiennes qui ont une relation avec le Seigneur, mais elles passent par les autres. Elles passent par leur mari, elles passent par le pasteur, elles passent par l'Église. Mais Dieu veut que chacune d'entre nous, nous ayons une relation personnelle avec le Seigneur et que nous apprenions à marcher personnellement avec Dieu. Si vous voulez devenir une femme qui marche avec Dieu, il vous faut vivre constamment devant votre Seigneur et être en relation directe avec lui. Et si ce n'est pas le cas, si vous attendez le dimanche matin pour être à l'église et avoir votre relation personnelle, eh bien, vous passerez à côté d'une vie bénie parce que le Seigneur veut être en communion avec vous tous les jours de la semaine et chaque instant, jour et nuit. Et ça, je vous dirais que c'est toute une école. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais le Seigneur est bon. Mais veillez à avoir votre communion personnelle avec le Seigneur. Et si vous voyez que d'autres chrétiens ou chrétiennes vous déçoivent, votre relation personnelle ne devrait pas en être ternie. Du tout, voyez-vous. Si votre frère ou votre sœur chute à côté de vous, ça ne devrait pas vous faire chuter, vous. Parce que vous, vous êtes en communion avec Jésus. Vous ne regardez pas à votre voisin, ou à votre voisine, ou à votre frère, votre sœur. Votre relation ne dépend pas du frère ou de la sœur, ni du pasteur, ni de l'église, ni de personne. Vous devez dépendre du Seigneur. Vous-même. Et quand Dieu commence à vous parler personnellement à vous, comme il me parle à moi, et il parle à chacun d'entre nous, seulement des fois on est sourde. On n'entend pas bien sa voix, parce qu'on fait toutes sortes de choses qui lui déplaisent, ou on mène sa vie comme on l'entend. Au lieu de la mener comme le Seigneur veut, ça veut dire que nos racines sont mauvaises et qu'il faudrait peut-être aller à la source, changer un petit peu nos racines et voir où il y a une faille dans notre vie qui est venue ternir notre relation avec le Seigneur. C'est jamais la faute, ni de la sœur, ni du frère, ni du pasteur, ni de personne. La faute n'est qu'en nous-mêmes. Quand notre relation avec le Seigneur est ternie, faut pas chercher la faute ailleurs, jamais. Alors je vois des fois des jeunes convertis qui disent ouais celui-ci, regardez comme elle se dit chrétienne, celle-ci elle se dit chrétienne et puis elle fait ça. Ah ben alors si c'est ça, et il laisse tomber le Seigneur. Est-ce que ils avaient de bonnes racines ces gens-là? Pas de bonnes racines. Leur racine était mauvaise et il faut revoir la base et savoir à qui vous avez donné votre vie, vraiment. Recommencer et rétablir votre relation personnelle avec le Seigneur. Et dès que vous voyez que vous avez fauté, que vous avez fait une faute ou un péché par accident, parce qu'une chrétienne ne pêche plus par habitude, sinon elle n'est pas chrétienne, mais par accident, eh bien, dès que il vous est arrivé un accident, vous avez dit une mauvaise parole, vous avez mal agi, tout de suite, demandez pardon au Seigneur. Et immédiatement, le sang de Jésus vous lave et vous purifie de tout péché. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que moi, dans ma propre vie, dès que je sens que l'Esprit de Dieu est attristé en moi, que, eh bien, je reviens à lui et je dis, Seigneur, qu'ai-je fait, montre-moi. Et le Seigneur me montre toujours là où j'ai commis une faute. Il n'attend pas. Il n'attend pas un jour, deux jours, quinze jours, un mois pour vous le dire. Il vous le dira bien vite, parce qu'il ne veut pas que vous restiez bloqué ainsi dans votre vie chrétienne. Il veut que vous continuez d'avancer toujours. Et si vous lui demandez, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi ce que je viens de mal faire, eh bien, le Seigneur le fera. Il vous aidera, comme il m'aide aussi. Mais il est important que vous preniez du temps chaque jour pour entretenir, cultiver, faire grandir votre relation personnelle avec le Seigneur. Et je vous assure, quand au début de notre ministère, eh bien, le Seigneur m'a beaucoup, beaucoup formée à cela. Et avoir une relation personnelle avec le Seigneur, c'est une discipline. Ça ne tombe pas du ciel automatiquement. Et on voit aussi beaucoup de chrétiennes qui disent « Oh ben, aujourd'hui, j'ai pas envie de lire ma Bible, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de ceci, de cela. » Mais là n'est pas la question. Si tu aimes ton Seigneur, tu es prête à tout instant, à tout moment, à rétablir ta relation avec le Seigneur. Tout de suite, tu reviens à lui. Parce que tu sais que tu ne peux pas vivre en dehors de sa présence. Qui est-ce qui sait ici qu'il ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu? Nous ne pouvons pas exister en dehors de sa présence. Nous sommes malheureux. Et si nous faisons notre propre volonté, eh bien nous serons des chrétiennes malheureuses. Nous n'aurons pas la joie du Seigneur telle que nous devrions l'avoir. Donc, il est important de veiller à sa relation afin que rien ni personne ne vienne ternir votre relation avec le Seigneur. C'est très important. Et quand vous êtes en relation avec le Seigneur veut vous faire grandir afin de mieux marcher avec lui. Alors, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on lise un petit passage maintenant dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et je continue au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et au verset 24, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Je voudrais particulièrement insister sur ce point-là ce soir. Pour avoir une vie qui plaise au Seigneur, il est important de rechercher à lui ressembler. Dans notre caractère, dans notre personne. Parce que on peut vivre une vie chrétienne charnelle, c'est-à-dire selon l'ancienne nature que nous avons, ou bien vivre selon l'Esprit, avec les fruits, porter les fruits de l'Esprit. L'apôtre Paul nous exhorte à marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. et cela pour mieux ressembler à notre merveilleux Seigneur. Alors je vais parler de ces différents fruits de l'esprit. Le premier fruit dont il est question ici, et que nous sommes toutes appelées à porter, c'est le fruit appelé l'amour. Et l'amour dont il est question ici, le fruit de l'esprit, l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour éros de la passion, ça n'a rien à voir avec l'amour philéo de l'amitié, ce n'est donc ni de la passion, cet amour-là, ni de l'amitié, ni l'amour storgé de l'affection, ce n'est même pas de l'affection. Cet amour-là, c'est l'amour agapé qui sait se sacrifier pour l'autre, qui sait aimer quand l'autre ne t'aime pas, qui sait faire du bien à l'autre quand l'autre ne t'en fait pas. Et ça, c'est un fruit que le Seigneur veut, nous chrétiennes, nous voir porter. Ne pas être influencé par une tête qui nous revient et une tête qui ne nous revient pas. Combien nous sommes facilement influencés par les apparences, c'est humain, mais nous devons avoir la victoire là-dessus. Pas, c'est vrai que porter tous ces fruits de l'esprit, ça relève du surnaturel et nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour le faire. C'est vrai que humainement parlant, nous, pour aimer l'autre, même si l'autre ne nous aime pas, et en mettant de côté tout esprit d'orgueil personnel, tout esprit d'intérêt personnel, aimer l'autre simplement pour le fait de l'aimer, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et si tu aimes l'autre et que tu t'oublies toi-même pour mieux aimer l'autre, eh bien, l'Esprit de Dieu vient à ton secours et t'aide à le faire et te remplit de joie. Te donne une satisfaction profonde. Tu as eu une victoire sur toi-même. Il ne faut pas nourrir la chair, il faut marcher par l'esprit. Et ça, c'est une autre dimension. Et le Seigneur veut nous conduire une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur. Si nous voulons avoir une vie qui lui plaise, il faut manifester cet amour agapé, cet amour qui se sacrifie, qui aime sans rien attendre en retour. Rien. Rien. C'est merveilleux, ainsi, de pouvoir avoir cet amour en soi, qui est libre de toute vengeance. Si l'autre t'a fait du mal, eh bien, tu cherches même pas à te venger. Tu lui pardonnes. Tu l'aimes quand même et tu le remets au Seigneur, tu remets la personne au Seigneur. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est marcher par l'Esprit. Ça, c'est avoir une vie qui plaise au Seigneur. Ça, c'est le premier fruit dont je parle. Et maintenant, le deuxième fruit, c'est la joie. Et cette joie-là, vous voyez, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ensuite, la joie. C'est une joie merveilleuse et glorieuse qui ne dépend absolument pas des circonstances. Vous pouvez être dans des circonstances terriblement douloureuses, mais avoir une joie intérieure que personne ne peut vous prendre et qui est plus forte que la douleur que vous êtes en train d'expérimenter. C'est la présence du Seigneur. C'est beau, c'est très beau d'avoir cette joie en soi. Cette joie de savoir que vous êtes en relation avec le Seigneur et cette joie de savoir qu'il tient ses promesses à votre égard et qu'il ne vous laissera pas. Dans l'épreuve la plus difficile, il sera là à vos côtés. Et sa présence vous procure cette joie profonde. Vous pouvez avoir une joie profonde en ayant les larmes aux yeux, en étant dans des circonstances difficiles, très difficiles. La joie de Dieu est toujours présente, même au milieu des souffrances les plus grandes. D'ailleurs, c'est ce qui explique les martyrs. Vous savez, on parle des martyrs qui sont morts dans les arènes, dévorés par les lions, et sur les bûchers, qui chantaient. Dites-moi, d'où leur venait cette force de chanter dans l'adversité? Et je sais que ce soir, il y a une personne qui est dans l'adversité. Et tu viens de passer par le deuil, et le Seigneur veut te dire, je sais ce que je fais. Je viens ce soir consoler ton cœur, et ma joie est toujours là au fond de ton cœur, dans cette circonstance difficile. Reçois ma consolation. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci, tu consoles cette personne. Merci Jésus, gloire et louange à toi Seigneur. Tu es le divin consolateur. Et tu donnes une paix, une joie à cette personne. Et tu lui montres que tu es là. Et que même si elle a dû passer par le deuil et la souffrance de la séparation, tu es là et tu prends soin d'elle. Alléluia Seigneur, alléluia. Donc la joie et la douleur peuvent coexister. Mais il y a une chose qui ne peut pas coexister. Seul, c'est le péché et la joie du Seigneur. Vous avez remarqué? Quand je pêche, je fais quelque chose, je perds ma joie dans le Seigneur. Le péché m'enlève la joie du Seigneur. Le péché et la joie du Seigneur ne peuvent pas coexister. La douleur et la joie peuvent coexister. C'est quelque chose, ça, hein? C'est formidable. Donc, si tu as péché, tu as perdu ta joie, si tu es chrétienne et que tu as perdu ta joie, eh bien, confesse ton péché. Abandonne-le et tu retrouveras immédiatement la joie que tu as perdue. Et plus nous connaissons le Seigneur, plus cette joie augmente. Parce que plus longtemps vous avez vécu avec le Seigneur, et plus votre joie dans le Seigneur augmente parce que vous connaissez le Seigneur depuis des années et plus des années. Et vous savez, je vous parle de ces fruits de l'esprit parce que si, je fais une parenthèse là, une idée qui me vient, si vous voulez être efficace dans les dons du Saint-Esprit, comme la prophétie, tous les dons du Saint-Esprit que vous connaissez, eh bien vous devez porter les fruits de l'esprit. C'est pour cela que je vous donne ces précieuses vérités. Parce que si vous ne portez pas les fruits de l'esprit, vos dons, quels qu'ils soient, parlés en langue, dans des langues, prophéties, ne sont qu'une cymbale qui retentit, un airain qui résonne et ne porte pas de fruits. Comprenez? Donc c'est très important ce que je vous dis là. C'est une clé pour manifester la puissance de Dieu. Et là, c'est là que le Seigneur nous trouve et nous cherche. Parce que c'est là qu'il nous forme, et c'est là qu'il veut nous voir grandir et nous épanouir dans le Seigneur, dans lui. Alors, le troisième fruit, c'est la paix. Et il est dit dans la parole que Dieu nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix provient de ce que nous sommes en paix avec Dieu. Notre relation est bonne, le courant passe, nous communiquons avec le Seigneur et le Seigneur nous parle. Et quand la relation est normale, notre cœur aussi est en paix. C'est beau, c'est très beau de vivre une vie réconciliée avec Dieu dans une paix parfaite. Et nous sommes aussi en paix parce que nous savons que notre vie, c'est Dieu qui la tient. Notre vie, il la tient dans sa main. Il tient l'univers entier dans sa main. Il tient ta vie dans sa main. Tu n'as rien à craindre. Tu peux être en paix parfaite, sachant que celui qui tient le monde entier dans sa main, les étoiles, les astres, l'univers tout entier, la terre tout entière et tout ce qu'elle contient, tiens ta petite vie dans sa main. Quelle paix! Quelle paix! Et je sais qu'il y a ici une chrétienne qui souffre d'angoisse Et pendant le message, là, le Seigneur la touche. « Reçois ma paix, dit le Seigneur. Tu souffres d'insomnie, t'as pas besoin de souffrir, je suis ta paix, dit le Seigneur. Reçois ma paix et va dormir tranquille cette nuit. Arrête tes somnifères. Laisse-moi remplir ton cœur de ma paix ce soir. Merci Seigneur, alléluia Jésus. Merci Seigneur. Un autre fruit de l'esprit, c'est le suivant, c'est la patience. La patience, c'est un beau fruit aussi. Ça veut dire tout supporter avec persévérance. Et triomphalement, dans les circonstances les plus difficiles, la patience se traduit par une endurance pleine de compassion face aux attaques des autres. Quand les autres vous attaquent, c'est là que le Seigneur vous teste et c'est là que ce fruit de l'esprit doit se manifester. Les autres vous font du mal et vous, vous ne bougez pas, vous répondez, vous ne sortez pas de vos gonds, vous restez victorieuse dans les situations les plus difficiles. C'est ça la patience du Seigneur, le fruit de l'Esprit, qui nous rend victorieux dans les circonstances les plus difficiles. Nous ne perdons pas le contrôle de nous-mêmes, nous savons attendre. Attendre, et le Seigneur dit aussi, c'est lui qui nous justifie. Nous n'avons pas à nous justifier nous-mêmes, c'est lui, le Seigneur, qui nous justifie. Ça fait que si ta famille t'attaque, si quelqu'un de ta famille te fait du mal, sois patiente. Et c'est le Seigneur qui pourra agir. Souvent, nous voulons agir. Nous voulons régler les affaires. Nous voulons changer les personnes. Est-ce que nous y parvenons? Jamais, parce que nous ne pouvons pas changer quelqu'un d'autre. Il n'y a que le Seigneur qui peut le changer. Alors, soyons patientes, sachant attendre que Dieu lui-même intervienne. Et s'il y a un problème quelconque, une tension quelconque, sachons la remettre au Seigneur. Et dire, Seigneur, j'attendrai. Toi-même, tu interviendras. J'attendrai. Ça, c'est la patience. Attendre. Savoir attendre. Vous savez, dans ce 20e siècle dans lequel nous habitons, dans lequel nous vivons, est tellement presse-bouton, est tellement, nous stresse tellement, veut tellement nous pousser à la rapidité que même dans nos relations, nous avons tendance à vouloir agir presse-bouton et puis régler les affaires. Et c'est là que nous nous trompons magistralement et que nous empêchons le Seigneur d'agir lui-même. Alors, exerçons aussi ce fruit-là. Exerçons-nous à la patience, afin que nous puissions aussi avoir une vie qui plaise au Seigneur et qui le glorifie, à cause de la patience. Ensuite, un autre fruit, c'est la bonté. La bonté, c'est une disposition de cœur que le Seigneur nous donne à être gentil, généreux, à rendre service, à montrer de l'indulgence, à faire du bien. Une personne bonne n'est jamais dure. Elle est toujours compatissante. Elle n'est jamais indifférente. Elle se penche sur la souffrance de sa sœur ou de son frère. La bonté, c'est faire du bien. C'est être compréhensif. Combien nous avons besoin de grandir, d'être comme Jésus, qui était bon. Il est bon à l'égard de nous tous, et parce qu'il est bon, nous pouvons aussi être bons. Et c'est là que nous devons chercher à lui ressembler. De plus en plus, de plus en plus. Une personne bonne ne répondra jamais à l'insulte d'une autre personne. Elle saura rester calme, elle saura se tenir tranquille et s'attendre au Seigneur. C'est toujours une question de foi, en fait. De foi dans le Seigneur. Ensuite, la bienveillance. Je continue un peu vite maintenant. La bienveillance, c'est avoir un excellent caractère. La bienveillance, c'est la vertu qui possède toutes les qualités. Une personne bienveillante est bonne, vertueuse, droite. C'est le contraire de la méchanceté. Voilà ce qu'est la bienveillance, c'est le contraire de la méchanceté. Une personne bienveillante, c'est quelqu'un qui manifeste la vérité, la justice, la pureté. Mais en plus, cette personne est aimable, affectueuse, ferme pour reprendre, corriger, redresser. Et l'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Romains, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Si nous laissons quelqu'un détruire nos bonnes dispositions par la haine, nous sommes vaincus par sa méchanceté. Le Seigneur veut que nous soyons vainqueurs, non pas vaincus. Quand quelqu'un vous fait du mal, eh bien, la meilleure façon de lui répondre, c'est avec bienveillance. On a tellement à grandir dans ce domaine-là, tellement, tous. Tellement de choses, tellement de chemins à parcourir pour ressembler au Seigneur. Mais le Seigneur est bon, par son Esprit, il nous aide. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous permet de grandir dans ces fruits de l'Esprit et de les porter et de glorifier le Seigneur toujours plus. Une autre chose, un autre fruit maintenant, c'est marqué la foi. Après la bienveillance, c'est la foi. Mais la foi, je vais vous dire, c'est une mauvaise traduction. Le texte original ne parle pas de foi, mais parle de fidélité. Et la fidélité, c'est être loyal. C'est être fidèle et à son engagement. Et là aussi, nous voyageons dans beaucoup de pays et vraiment, parfois, c'est attristant de voir que vous ne pouvez pas compter sur un chrétien, une chrétienne, parce que son oui n'est pas oui et son non n'est pas non. Et la parole de Dieu dit que tout le reste vient du malin. Nous devons apprendre à tenir parole, à être fidèle à notre parole, à notre engagement, fidèle dans le paiement des factures, fidèle dans les rendez-vous, fidèle quand on dit c'est cette heure-là, c'est cette heure-là, puis c'est pas une autre. Ça aussi, c'est la discipline du Seigneur. Ça aussi, c'est un fruit de l'Esprit que nous devons porter fidèle, fidèle aux réunions. Et là, je pense que chacun a à grandir là-dedans. Et c'est une décision que nous devons prendre. Moi, vraiment, c'est ma décision. Je veux être une personne loyale. Parce que dans ce domaine-là, je veux qu'on puisse compter sur moi. Et quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Même si je dois me lever la nuit pour le faire, je le ferai quand même. Et ça glorifie le Seigneur. C'est ça, avoir une vie qui plaise au Seigneur. C'est porter tous ces fruits de l'Esprit. Ça, si on commence déjà à grandir dans tous ces fruits de l'Esprit, je vous assure que notre vie sera beaucoup plus à la gloire du Seigneur que si nous nous laissons simplement aller et puis nous faisons ce qui va comme je te pousse. Et puis une personne qui vit va comme je te pousse ne porte pas les fruits de l'Esprit. Une chrétienne qui vit comme ça, qui se laisse aller comme ça, qui fait juste ce qu'elle a envie, n'est pas une personne qui porte les fruits de l'Esprit. Pour porter les fruits de l'Esprit, c'est une discipline. Et le chrétien, la chrétienne, est forcément, si elle veut glorifier son Seigneur, une personne disciplinée dans toute sa vie. dans les moindres détails, dans son caractère, dans son programme, dans sa vie à la maison, dans sa vie dans la rue, dans sa vie à l'église, dans sa vie partout, partout, partout. Être fidèle à l'engagement de notre mariage. Et là, alors je crois que il y a beaucoup à dire. Combien de divorces? Combien de femmes qui laissent leurs époux, leur famille? Ou bien des hommes aussi? Je ne dis pas, c'est des deux côtés. Là aussi, le Seigneur veut ramener son peuple dans, l'attirer plus près de lui, et il l'exhorte à porter les fruits de l'esprit, c'est-à-dire la fidélité. Savons-nous encore aujourd'hui ce que c'est que la fidélité? Dès qu'il y a une difficulté, on envoie promener, on claque la porte, on s'en va, on prend sa valise. Ah ben tiens, puisqu'on en est là, le Seigneur m'a donné une parole pour quelqu'un ici, à cause des difficultés que tu as avec ton mari. Juste, ça me revient maintenant. Le Seigneur te parle maintenant. Toi qui es en difficulté avec ton mari, tu as envie de quitter le foyer conjugal. Le Seigneur t'encourage à patienter encore. Et il te dit, je n'ai pas fini d'agir dans ta situation. Fais-moi confiance, ma fille. Laisse-moi faire. Sois patiente et tu verras que tout est possible à celui en qui tu te confies. C'est moi, dit le Seigneur, qui change les temps et les circonstances. C'est moi qui change aussi le cœur de ton mari. Crois simplement et tu seras étonné de ce que je peux faire dans ton foyer. Ce que tu pensais impossible est tout à fait possible, parce que tout est possible à celui qui croit. J'exhorte cette femme à ne pas quitter son foyer. Oh, le Seigneur a placé une urgence là sur mon cœur et je vais le partager. Et merci Seigneur, prions pour cette femme. Merci Seigneur, tu lui donnes le courage de patienter et d'aller jusqu'au bout et de lui prouver sa fidélité dans les bons et dans les mauvais jours. Alléluia, alléluia Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur de ce que tu vas réconforter cette personne. Assiste-la de ta présence et encourage-la quand elle rentrera à la maison. Merci Seigneur. Eh bien, vous savez, je fais une toute petite parenthèse là parce que ça me revient à l'idée. Maintenant, c'est formidable parce que nous étions, il y a 2 ans au Togo, dans une grande campagne d'évangélisation. Et puis, là, il y avait une femme, justement, qui était toujours battue par son mari quand elle rentrait à la maison. Et puis, elle était là à la campagne. Et il y a eu cette parole de connaissance que le Seigneur guérissait son foyer. Elle avait peur de rentrer toujours chez elle. Elle se faisait toujours battre, son mari n'étant pas chrétien. Et ce soir-là, quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé un mari transformé, accueillant, qui a dit... qui était comme il n'a jamais été avec elle, qui lui a dit « Qu'est-ce que je peux te faire pour faire plaisir ?» Il ne cherchait qu'à lui faire plaisir, alors qu'avant, il la battait à chaque fois qu'elle rentrait à la maison. Méconnaissable. Le Seigneur avait guéri son foyer. Le Seigneur ne guérit pas seulement des corps, mais il guérit des foyers aussi. Et dans ces temps de la fin, nous avons plus besoin de voir le Seigneur guérir des foyers et pas quitter pour rien du tout. À la moindre difficulté, au moindre problème, à la moindre arrogance ou parole mauvaise de notre conjoint, on s'en va. C'est ça la patience, c'est ça le fruit de l'esprit. Non, le Seigneur veut que nous soyons comme lui, à sa ressemblance, répondant par la douceur, répondant par le contraire de ce qu'on vous fait. Et là, bien sûr, il faut rester près du Seigneur, bien en relation avec lui, recevoir de lui la force dont nous avons besoin. Parce qu'en nous, il n'y a pas la force. Mais si nous restons bien près de lui, il nous la donne. Être fidèle, fidèles dans nos responsabilités familiales, fidèles à l'égard de nos enfants, fidèles dans notre dîme à l'égard du Seigneur, fidèles dans la gestion de votre temps. De votre temps. Si le Seigneur vous demande de mettre un certain temps à part pour lui, eh bien là aussi, soyez fidèles au Seigneur. Mettez le temps qu'il vous demande de mettre à part. Moi, j'ai mis pendant 8 ans, 2 heures tous les matins à part. Pour prier pour le ministère de mon mari. Et encore maintenant, mon mari sait que pendant qu'il prêche, je suis là priant pour lui. C'est une question de fidélité. Fidélité au Seigneur, fidélité à mon mari. Et je vais être là. Et je veux continuer de le faire, toujours et toujours. La fidélité dans la gestion de votre temps, la fidélité dans les talents qu'il vous a donnés. Dieu vous a donné des talents. Et je vous dis que la majorité d'entre vous ici, vous avez enterré vos talents, sinon il se passerait beaucoup plus de choses. Dans le corps de Christ et dans l'Église. Moi, j'ai aussi appris à donner le peu que j'avais au Seigneur. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'attendre que vous ayez un grand talent quelque part. Le talent d'évangéliste, le talent de prophète, le talent de je ne sais quoi. Le Seigneur vous demande de mettre votre petit talent, de le sortir de la terre et de le mettre à disposition du Seigneur. Et lui le multipliera. Comme les disciples quand ils ont apporté les 5 pains et les 2 poissons. Est-ce que 5 pains et 2 poissons suffisaient pour nourrir la multitude? Rien du tout. Ça ne suffisait pas du tout. Et votre petit talent ne suffira pas à faire grand-chose. Mais entre les mains du Seigneur, qui est le Dieu des miracles, des multiplications, il peut multiplier à l'infini ce que vous lui donnez. Et vous seriez étonnés de voir ce qu'il peut faire. D'un petit talent qui a commencé tout petit, microscopique. Parce qu'il est le Dieu de l'infiniment petit et il est le Dieu de l'infiniment grand. Il s'est transformé quelque chose de petit en quelque chose de très grand. Alors soyons fidèles dans les talents que Dieu nous a donnés. Et ne changeons pas constamment d'idée. C'est ça, la fidélité. Même si on se moque de vous, sachez être fidèle au Seigneur quand même. Même si on vous insulte, heureux serez-vous lorsqu'on dira sur vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit le Seigneur. Alors c'est vrai que humainement, notre cœur n'aime pas trop ça. Les insultes, les moqueries, on n'aime pas ça. Mais si vous savez avoir la victoire, heureux serez-vous. Le Seigneur nous dit, ne t'en fais pas si on t'insulte, ne t'en fais pas si on se moque de toi. Tu auras ta récompense auprès de moi. Auprès de moi, dit le Seigneur. La douceur est cette qualité que le Seigneur nous appelle à avoir. Cette qualité qui se plie à la volonté de Dieu sans rébellion. C'est ça la douceur. C'est dire, Seigneur, tu ne te trompes pas dans tes voies. Ce que tu fais est parfait. Je ne le comprends pas parce que tes pensées sont au-dessus de mes pensées et tes voies sont au-dessus de mes voies. Mais je me plie à ton plan et à ta volonté. Sans plainte, ni question, sachant que mon Père est trop rempli d'amour pour moi, pour être méchant avec moi. Ne doutons jamais de l'amour du Seigneur. C'est ça la douceur. La douceur devant Dieu, c'est celle qui accepte que les bonnes choses et les mauvaises nous viennent dans notre vie sans nous rebeller contre lui. C'est ça la douceur. C'est un fruit de l'esprit. Savoir rester modeste, humble et non arrogante. Ensuite, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est être modéré et savoir m'abstenir dans chaque domaine de ma vie. Le Saint-Esprit me rend capable d'être maître de moi en ce qui concerne mes pensées, c'est-à-dire je n'accepte pas n'importe quelle pensée qui me passe par la tête. Nous avons tous des pensées mauvaises que nous pouvons accepter ou ne pas accepter. Mais quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Vos mauvaises pensées, c'est la même chose. Vous devez résister aux mauvaises pensées et ne pas les accepter. C'est ça, la maîtrise de soi. Être maître de soi dans ses pensées, dans son appétit, dans ses paroles, dans sa vie sexuelle, dans son caractère et dans toute autre chose que Dieu nous a donnée. La maîtrise de soi, c'est m'imposer une vie de discipline. Et ça, c'est une grande victoire, parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur peut vraiment vous utiliser dans différents domaines, parce que vous reflétez sa gloire, vous reflétez sa personne. Le Seigneur était une personne très digne, très respectueuse, très douce, très bienveillante, tout à la fois ferme, et il avait de l'autorité. Mais il portait ses fruits de l'esprit. On le voit quand on lit les évangiles. Tout au travers de lui, c'était une personne absolument maître d'elle-même. Et si nous voulons être semblables à lui, nous devons grandir dans la maîtrise de nous-mêmes et nous imposer une certaine discipline. L'apôtre Paul disait, « Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. » Si tu parles aux autres, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et puis que toi, dans ta vie, tu te laisses aller complètement dans ce domaine-là. Ta parole ne portera pas. Parce que la personne, elle dira, mais ce que tu as écrit tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Dominer certaines passions, des convoitises de la chair, des idées impures. La maîtrise de soi, c'est une discipline personnelle. Voilà. Voilà les fruits de l'esprit que j'ai traité avec vous ce soir. Et je pense que... Bon, j'avais d'autres points, mais je vais les laisser. Je vais prendre le dernier point pour avoir une vie qui plaise au Seigneur. Et je m'arrêterai avec ce point-là. Pour avoir une vie qui plaise au Seigneur, le Seigneur veut que dans ces temps de la fin, je me prépare toujours plus à son prochain retour. Combien nous voyons de chrétiens et de chrétiennes qui ne se préparent pas du tout, on dirait, comme du temps de Noé, que le déluge ne va jamais venir, le Seigneur ne va jamais venir. Ils vivent comme si le Seigneur n'allait jamais venir revenir. Alors que nous vivons des temps extrêmement importants, extrêmement décisifs, tout se prépare pour la venue de l'Antichrist et avant que l'Antichrist ne revienne, c'est le Seigneur qui reviendra sur les nuées du ciel. Bientôt la trompette va sonner, bientôt le Fils de l'homme va descendre sur les nuées du ciel, bientôt il va venir sortir les morts de leur tombeau, les chrétiens avant nous, et nous nous enlever dans les airs avec lui pour nous transporter dans sa gloire. Une vie, mener une vie qui plaise au Seigneur dans ces temps de la fin, c'est l'attendre chaque jour. Dire « Maranatha, Seigneur, je t'attends. Viens, Seigneur, viens, mais sauve encore tous ceux qui sont sur mon cœur. Bien sûr, toujours porter le fardeau de ceux qui sont encore perdus dans notre famille, toujours. Mais croire que bientôt, il va venir. Celui pour lequel nous avons vécu, celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie, celui qui nous a conduits jusqu'ici, nous transportera bientôt dans sa gloire. Vous savez, juste en vitesse, je ne serai pas longue dans ça, mais il y a quelques années, pas très longtemps, le Seigneur m'a donné cette vision où j'ai vu que son retour allait être très proche, être très proche. Tout le montre dans ce monde, les chrétiens du monde entier en parlent, c'est sûr. Mais le Seigneur m'a montré, il était assis sur le trône et la multitude des rachetés dans le ciel, avec une palme à la main, un chant nouveau dans leur bouche, un nom nouveau inscrit sur leur front, louer l'agneau. Et puis, j'ai vu plus bas, en dessous, J'ai vu nous les chrétiens de la terre. Et le Seigneur m'a dit, bientôt, je vais vous transporter. Ceux qui sont sur la terre, vous allez rejoindre ceux qui sont dans le ciel. Cette foule innombrable qui louait l'agneau assis sur le trône. Jour et nuit, bientôt nous allons le rejoindre. Nous allons être transportés dans sa gloire. Nous allons le voir face à face. Celui qui nous a aimés. Celui qui est mort pour nous. L'agneau de Dieu. Et il m'a donné ces paroles pour vous, ce soir, pour vous préparer à la rencontre, à l'enlèvement qui aura lieu sur les nuées du ciel. Un jour, peuple de Dieu, celui qui est assis sur le trône t'introduira dans la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Oh, merci Seigneur, bientôt ce jour viendra. Bientôt nous serons libérés de toute angoisse. Un jour, mon peuple, tu habiteras avec moi. Tu me verras face à face. Tu seras mon peuple. Et je serai ton Dieu pour l'éternité. C'est alors que j'essuierai toute larme de tes yeux. C'est alors qu'à la mort, la souffrance, la maladie, le deuil, le désespoir, les cris, les douleurs ne seront plus. Toutes ces choses auront disparu. Toutes choses seront nouvelles. Je t'introduirai dans la nouvelle Jérusalem, dont l'éclat est semblable à celle d'une pierre précieuse, transparente comme du cristal. Tu découvriras alors la beauté de ma cité, celle qui est entourée d'une grande muraille. Peuple de Dieu, lève ta tête car ta rédemption approche. Tu découvriras cette ville d'or pur, semblable à du verre pur, tout ornée de pierres précieuses de toute espèce et dont la place de la ville est aussi d'or pur transparente comme du verre. C'est une ville, écoute ça, c'est une ville dont les portes ne se fermeront jamais, car il n'y aura là ni nuit ni ténèbres. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge ou à la violence. Il n'y aura donc là plus de détresse, de cris, de deuil, plus de larmes. Ce sera le bonheur parfait pour l'éternité. Nous n'aurons plus besoin de lampes, ni de lumière, car le Seigneur lui-même éclairera cette cité bénie dans laquelle il nous transportera bientôt. Alléluia, je vous demanderai de vous lever dans la présence du Seigneur maintenant. La présence du Seigneur est là, et que chacune de nous puisse d'abord dire quelque chose au Seigneur. Reconsacrer sa vie à celui qui vient bientôt sur les nuées du ciel. Bientôt, bientôt, le combat sera terminé. Mais pour le moment, ta vie est appelée à glorifier le Seigneur. Le Seigneur veut que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Le Seigneur veut que enlever des vases d'honneur pour sa majesté, sa royauté. Il veut que de ta vie dégage un bon parfum. Ta vie dégage un bon parfum. Alors il veut que tu portes les fruits de l'esprit afin que ta vie plaise au Seigneur et monte comme un parfum agréable à ses narines. Levons nos mains vers le Seigneur et disons-lui, Seigneur, je veux être ce vase d'honneur, ce parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, je me sens si incapable de porter tous ces fruits. Je suis faible. Je n'arrive pas à être comme ce que tu voudrais que je sois. Mais merci pour le secours de ton esprit qui m'aide à devenir semblable à toi. Parce que tu viendras enlever une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une épouse puissante parce qu'elle t'aura glorifié au travers d'une vie sacrifiée, au travers d'une vie livrée, au travers d'une vie qui ne pense plus à elle-même, qui a cessé d'être égoïste. Ô Seigneur, pardonne tout ce qui t'a attristé, tout ce qui n'est pas la gloire, à ta gloire dans ma vie. Seigneur, je veux vraiment que tu sois glorifié. Alléluia, Seigneur, tu es là et tu as entendu tout ce qui a été dit et tu connais ma vie. Je suis comme un livre ouvert devant toi. Tu y lis toutes mes pensées, tous mes actes, tout ce que je suis, ce que je ne suis pas aussi, tu le vois. Seigneur, je veux te glorifier. Ô Seigneur Jésus, viens en aide à notre faiblesse. Aide-moi, Seigneur, afin que le monde voie que nous sommes tes disciples, que nous sommes tes envoyés, que nous sommes tes ambassadeurs. Et Seigneur, c'est là que ta puissance se manifestera au travers de notre vie, de ta vie, ma sœur, de la mienne. C'est au moment où tu porteras les fruits de l'Esprit que la puissance de Dieu viendra confirmer ta vie, attester cela. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, merci, merci, merci Seigneur. Jésus, alléluia, la puissance de Dieu est là. Jésus est présent, il est ressuscité, il a tout pouvoir. Et il va agir au milieu de nous. Alléluia, le Seigneur va agir au milieu de nous. Gloire à toi Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Je demanderai à toute personne malade au milieu de nous, alors que la présence de Dieu est là au milieu de nous, son esprit est là, veut agir. Je demanderai à toute personne de poser sa main là où elle est malade. Alléluia, si tu es mal à l'estomac, pose ta main sur son estomac. Tu as mal à la gorge, pose ta main sur ta gorge. Tu as mal à l'épaule, tu poses ta main sur l'épaule. Alléluia, oh Jésus est présent. Alléluia, la puissance de Dieu est là et il vient confirmer sa présence et sa parole. Alléluia. Et nous allons prier maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus, merci de poser ta main sur ces malades. Et au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité. Vous avez été vaincus à la croix du calvaire. Jésus est mort. Dans ses meurtrissures, nous avons la guérison et nous le confessons maintenant. Au nom de Jésus, toute maladie, tout ulcère, malin, disparaisse. Au nom de Jésus, que toute douleur disparaisse. Au nom de Jésus.
Les cieux
proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du tu seras,
à jamais tu seras,
l'agneau sur le trône,
oui, l'agneau sur le trône,
prosterné devant toi.